Une blessure fréquente pour les sportifs, pour monsieur, madame, tout le monde également, parce qu'il y a des commotions cérébrales, ça peut arriver à tous les jours.
Tout à fait.
Notre invité dans le vestiaire, il est le président du CA de la Corporation des thérapeutes sportifs du Québec, monsieur Philippe Fay. Monsieur Fay, bonjour.
Bonjour à vous, merci de l'invitation.
Alors, monsieur Fay, suite à une blessure à la tête, comment on détecte une commotion cérébrale?
Mais en fait, une commotion cérébrale, c'est une blessure qui est, selon certains, un peu banale, mais qui est quand même assez complexe à évaluer puis à détecter parce que ça touche le cerveau. Donc, une des premières choses à faire, c'est de voir est-ce que les fonctions du cerveau sont affectées suite à un coup, par exemple un coup à la tête. Et à ce moment-là, en vérifiant si les fonctions sont altérées, bien, on peut détecter la commotion.
Mais on semble prudent lorsque vient le temps de se prononcer, lorsqu'on croit qu'il y a une commotion cérébrale. On voit souvent des sportifs retourner dans le vestiaire, puis là, on se dit, ben, il va-tu revenir? Mais là, oups, il ne revient pas au jeu. Alors, donc, on est très, très prudent quand il vient le temps de se prononcer?
Ben, en effet, parce qu'une des choses particulières de la commotion cérébrale, c'est qu'on n'a pas de test qui existe, comme une imagerie, par exemple. Si quelqu'un a une fracture, on va faire une radiographie, on va voir l'os qui est cassé sur la radiographie. Très facile à identifier. On va mettre un plâtre, puis on va dire au joueur, attends 6 semaines. Pour ce qui est de la commotion, une imagerie, si on prend une imagerie du cerveau après une commotion, le cerveau va avoir l'air complètement sain. Donc, la problématique avec la commotion, c'est que c'est une blessure métabolique, si je peux dire ça ainsi. Donc, c'est des changements chimiques là, qui vont se produire dans le cerveau suite au coup. Puis des fois, les symptômes, les signes et symptômes peuvent apparaître quelques minutes plus tard, donc pas immédiatement après le coup, ou quelques heures plus tard, ça peut apparaître le lendemain. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de prendre le joueur chez qui on suspecte une commotion, de prendre un repos de quelques minutes, d'évaluer sa condition. Est-ce que sa condition est en train de se détériorer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voit immédiatement qui sont des symptômes? Et ça se peut que les symptômes apparaissent plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on fait extrêmement attention. Puis aussi parce que c'est une blessure qui vient toucher le cerveau, donc qui va toucher toutes les fonctions de notre corps. Ce qui fait que à long terme, si on a des multiples commotions cérébrales, ben ça peut avoir un effet quand même assez important sur le développement si on parle d'un enfant, ou même si on parle des adultes, ben ça peut avoir une dégénérescence là à long terme.
Monsieur Fay, on entend souvent dire le thérapeute doit suivre le protocole. C'est quoi ce protocole-là?
Excellente question. Mais ça, c'est un protocole qui est international. Donc, il peut être ajusté selon les sports, mais à l'international, à tous les 4 ans, il y a les experts internationaux qui se rencontrent, qui discutent là, des commotions cérébrales, puis qui établissent un protocole basé sur les données probantes, basé sur la littérature scientifique, puis sur les recherches scientifiques qui ont été faites dans les 4 années d'avant. Donc, pendant 4 ans, on fait des recherches, on se présente, tout le monde ensemble, on discute des résultats, puis là, on établit des nouveaux protocoles. Donc, à tous les 4 ans, on révise ces protocoles-là, qui sont par la suite disséminés un peu dans tous les sports, là, que ce soit les sports professionnels, puis au Québec ici, ben ça va aller jusque dans les écoles. Donc, c'est des protocoles qui nous disent quoi faire quand on a une commotion cérébrale, quelles sont les étapes à suivre, quand est-ce qu'il faut faire du repos, quand est-ce qu'on peut commencer à s'activer de façon un peu vraiment globale pour permettre la meilleure récupération possible suite à une commotion.
Et comment vous faites pour identifier les symptômes? Tu sais, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de bosse. Ben, des fois, il peut y avoir une bosse, là, mais ça ne doit pas être évident pour les médecins, pour les thérapeutes, pour ceux qui soignent les joueurs de sport, pour dire ben c'est vraiment une commotion que notre client a.
Exactement. Mais ça, c'est une des choses que les thérapeutes du sport apprennent. Donc, ça fait partie de la formation des thérapeutes du sport, qui est une formation universitaire. Et à l'université, on apprend que les commotions cérébrales, il y a 4 types de symptômes qui peuvent apparaître. Donc, des symptômes physiques, ce que les gens peuvent reconnaître plus facilement là, quand ils ont une commotion. Par exemple, un mal de tête, un étourdissement. Ça, c'est des symptômes qu'on va appeler physiques. La liste des symptômes, je ne vous les dirai pas toutes, là, parce que c'est une liste de 22 symptômes là, qu'on peut répertorier. Donc, la première dimension, c'est la dimension physique. Ensuite, on peut avoir une dimension qui est plus cognitive. Donc, à ce moment-là, on va parler de temps de réaction qui diminue, des problèmes d'attention, de concentration qui peuvent se produire. Troisième dimension, ça va être les problèmes qui sont plus de type sentiment, je dirais, ou le type affectionnel. Donc, tout ce qui est le cerveau va gérer les sentiments, donc le stress, tout ce qui est, des fois, l'athlète là, va se mettre à pleurer pour rien ou va rire pour rien. C'est des, son cerveau est vraiment altéré. Donc, c'est la dimension affectionnelle. Puis la dernière dimension, c'est les troubles du sommeil. Donc, s'il y a des problématiques qui sont au niveau du cerveau, la commotion va affecter le sommeil, que ce soit l'athlète a envie de dormir énormément, là, ça peut être 20 heures par jour, ou l'inverse, n'arrive plus à s'endormir puis fait de l'insomnie. Et toutes les déclinaisons entre ces deux extrêmes. Donc, c'est ces quatre dimensions-là que le thérapeute du sport va évaluer pour s'assurer que tous ces symptômes-là sont présents ou absents en termes de commotion cérébrale. Puis la particularité, c'est que je vous disais qu'il y avait une liste de 22 symptômes, bien, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a une commotion a la liste des 22 symptômes au complet. Il peut en avoir 4, 5, il peut en avoir juste 3 symptômes. Donc, c'est ça qui rend un peu difficile l'évaluation de la commotion, c'est que c'est pour le même coup puis le même accident, deux personnes pourraient avoir des symptômes différents, mais qui découlent quand même de la commotion.
Est-ce que c'est difficile et long de se remettre d'une commotion cérébrale?
Bien ça, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, est-ce que c'est la première commotion cérébrale qui se produit? Est-ce qu'il y en a eu plus qu'une dans la carrière de la personne? Est-ce que c'est deux qui ont été rapprochés? Donc ça, c'est tous des éléments qui vont rentrer en ligne de compte en termes de récupération. Mais quand on parle d'une simple commotion cérébrale, donc il n'y a pas eu d'historique de commotion antérieure, ce qu'on voit en général, ça prend 10 à 14 jours pour avoir une récupération optimale pour les adultes. Ça peut aller jusqu'à 30 jours. Puis pour les enfants, les adolescents, on parle d'une période de 30 jours, c'est encore dans la normalité.
Et comment on traite ça, une commotion cérébrale? C'est compliqué à traiter?
C'est pas si compliqué que ça si on a une bonne connaissance de cette blessure-là. Une des premières choses, c'est vraiment de donner du repos cognitif. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a les quatre dimensions là, qui comprennent la dimension cognitive, donc les temps de réaction, l'attention, la concentration. Donc, c'est pas le temps d'aller lire des livres ou de faire de l'ordinateur ou des jeux vidéo. C'est vraiment de reposer le cerveau en termes cognitifs. Reposer aussi au niveau physique. Pendant les 48 premières heures, c'est important de pas aller faire des efforts intenses parce que l'effort intense va faire que ça va amener beaucoup de pression au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Donc, on veut pas ça pour permettre au cerveau de bien récupérer. Puis par la suite, c'est d'évaluer au niveau des autres problématiques suite à l'accident. S'il y a eu une chute, par exemple, il y a souvent d'autres blessures qui vont se produire en même temps que la commotion. Par exemple, tout ce qui touche le cou, le cervical. Ça peut toucher aussi. Puis ce que ça fait, ça, c'est que ça amène d'autres types de symptômes comme des maux de tête, des étourdissements. Donc, on va aller voir est-ce que le cou est bien sain, est-ce qu'il est guéri ou est-ce qu'il y a des problématiques qui sont associées à ça, puis évaluer ça. Et par la suite, bien, faire les traitements qui sont en lien avec les signes et symptômes qu'on l'a trouvé.
Vous avez répondu un petit peu à ma prochaine question. Vous parlez du cou là, qui peut être atteint. Quand il y a une sévère commotion cérébrale, ça peut toucher d'autres parties du corps. Là. Vous avez parlé du cou, ça peut être la vue aussi.
Exactement. En fait, la vue, c'est vraiment la vision, c'est une des fonctions qui est souvent la plus touchée parce que la vision, incluant le mouvement des yeux, là, pas juste de voir un objet, mais vraiment le mouvement des yeux et la vision, ça prend 70% environ des fonctions cérébrales. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de commotion cérébrale, là, quand on regarde quelque chose puis qu'on fait bouger nos yeux puis qu'on regarde des images ou qu'on regarde au loin, 70% de ce qu'on voit est généré par le cerveau. Donc, quand on a une commotion cérébrale, ça a un impact direct sur les yeux, ça a un impact direct sur la vision. Donc, on peut avoir des problématiques des yeux qui sont altérés. Puis, vous avez mentionné le cou, bien sûr. Puis, il y a aussi l'oreille interne là, qui s'occupe de l'équilibre, qui peut être atteint là, si on a un choc assez important ou une chute assez importante.
Bon, OK, on va revenir sur les chocs importants, commotion cérébrale importante. S'il y a une perte de conscience, est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Bien, la perte de conscience, c'est un signe. On voit clairement que la personne est inconsciente. Mais ce n'est pas relié à la gravité de la commotion cérébrale. Donc, on peut voir quelqu'un qui est complètement inconscient, puis là, il va revenir à lui, on va faire les évaluations, puis finalement, sa commotion cérébrale va bien se rétablir. Puis à côté de lui, il y a quelqu'un, sa commotion passe presque inaperçue, là, parce que il est pas inconscient. Et lui, sa commotion cérébrale va être très longue à récupérer. Donc, c'est pas parce qu'il est inconscient que c'est un signe de gravité, mais quand il y a une perte de conscience, ben c'est plus facile d'objectiver le fait qu'il y a eu une commotion cérébrale.
Et là où ça peut devenir inquiétant aussi, c'est quand il y a des convulsions, là. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe.
Ben, c'est sûr que quand il y a des convulsions, ça veut dire qu'il y a eu une atteinte au niveau du cerveau, là, un petit peu plus profonde. Là. Souvent, c'est que le tronc cérébral, là, qui est plus profond à l'intérieur du cerveau, il a été touché par la vibration. Donc ça non plus, c'est pas... Oui, c'est impressionnant à voir, là, quelqu'un qui a perdu connaissance et qui a des convulsions, mais c'est pas... Selon les recherches scientifiques, là, c'est pas un facteur qui nous dit que la commotion cérébrale est plus grave. Par contre, oui, c'est impressionnant à voir, mais ça veut pas dire que la personne va récupérer plus lentement parce qu'il y a eu des convulsions.
Bien. Les séquelles maintenant, ça peut être long, ça peut être court. Parlez-nous un peu des séquelles d'un sportif, d'un athlète ou même suite à un accident de circulation, quelqu'un qui a une commotion cérébrale. On en a des séquelles pour combien de temps? Ça ressemble à quoi les séquelles?
Ben, les vraies séquelles, lorsqu'on parle de séquelles qui vont perdurer dans le temps là, de façon quand même assez prolongée, ça va être souvent relié à de multiples commotions cérébrales. Donc, ce qu'on sait, c'est que plus la personne va subir de commotions cérébrales, plus qu'elle va subir d'épisodes de commotions cérébrales, plus elle risque d'avoir des symptômes qui vont être lents à récupérer, donc des séquelles. Mais en général, si la personne a une seule commotion cérébrale, puis encore là, on parle de généralité parce que tout existe, là, il peut y avoir quelqu'un qui a juste une seule commotion puis qui va avoir des séquelles, puis d'autres qui vont avoir trois commotions puis qui n'aura jamais de séquelles. Mais en général, le point qui relie les commotions cérébrales aux séquelles, c'est vraiment le nombre de commotions cérébrales antérieures. Et un autre facteur, c'est aussi plus les commotions cérébrales sont rapprochées dans le temps, donc pas juste le nombre, mais quand est-ce qu'elles se sont produites dans le temps, plus elles sont rapprochées les unes des autres, plus il y a un risque de séquelles. Puis là, des séquelles, ça peut durer de quelques mois à quelques années pour certains. Là.
Je vais vous donner un peu mon exemple. Je pratique beaucoup de sport. J'ai eu quelques commotions cérébrales. Puis aussitôt que je me cogne la tête un petit peu, je vais avoir mal à la tête pendant 3, 4, 5 heures.
Ben, ça peut être une des je dirais pas une séquelle dans ce cas-ci, là, parce que des séquelles, habituellement, quand on va parler de séquelles, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'interruption dans les symptômes depuis que s'est produit l'accident ou la commotion. Mais c'est peut-être juste un relent de multiples commotions que vous avez eues, puis c'est votre corps se rappelle un peu des symptômes qu'il a subis antérieurement, puis les symptômes sont exacerbés plus facilement aussi quand on a eu des multiples commotions cérébrales.
Et je présume que s'il y a un choc important, que ce soit un accident de la circulation ou une grosse blessure de sport, on peut en mourir.
On peut mourir d'un trauma crânien.
Là ça devient un trauma crânien, oui, c'est ça.
Récemment, la joueuse de la boxeuse mexicaine là, qui en est décédée. Mais à ce moment-là, on parle pas de commotion, on parle vraiment de trauma crânien, là, d'un saignement à l'intérieur de la tête, qui peut avoir l'air d'une commotion au début, puis par la suite se détériorer. Mais une commotion cérébrale, on peut pas en mourir là, en tant que telle. C'est vraiment une blessure plus grave, donc une hémorragie intracrânienne, comme je disais, un œdème cérébral ou des choses comme ça qui vont provoquer le décès.
Je suis content que vous parliez, de vous donner comme exemple la boxeuse, M. Fay. Est-ce qu'elle a été mal diagnostiquée? Est-ce qu'on n'a pas été assez prudent dans son cas?
Ben pour moi, c'est difficile de vraiment commenter ce niveau-là parce que j'ai pas eu accès au dossier, puis j'ai juste suivi cette histoire-là un peu comme tout le monde dans les médias, puis bien sûr avec certains thérapeutes du sport, on en a discuté. Mais c'est vraiment difficile de commenter un cas particulier comme ça quand on n'a pas tous les éléments en main, malheureusement.
Il y a des grands athlètes qui ont dû mettre fin à leur carrière. Je pense à Eric Lindros qui a subi plusieurs commotions cérébrales. Je présume que vous en avez des gens dans le milieu du sport. Vous les conseillez à tout simplement arrêter de pratiquer leur discipline sportive?
Oui, ben ça fait partie un peu des protocoles qu'on a. Donc, on a plusieurs... Il y a plusieurs étapes à suivre là, dans quand on va conseiller nos athlètes, nos clients. Puis, en général, une des règles, là, c'est avant de mettre les gens à la retraite, là, c'est souvent, il va y avoir un arrêt prolongé du sport. Donc, par exemple, quelqu'un surtout chez les adolescents, là, mettons les adolescents ou les jeunes adultes qui ont deux commotions cérébrales dans la même année, habituellement, le protocole dit qu'on devrait arrêter un an de faire des activités à risque. Ça ne veut pas dire d'arrêter de faire de l'activité physique parce que c'est très important pour justement même le cerveau, pour le développement cérébral, le sport et l'activité physique est très important, mais d'arrêter les sports à risque. Donc, si c'est jouer au hockey ou au football, pendant un an, ce jeune-là qui a eu deux commotions cérébrales dans la même année devrait normalement arrêter. Puis on l'a déjà fait ça, même avec des hockeyeurs qui jouent dans le junior majeur. Puis on pensait, tu sais, souvent les agents, les parents, ils ont peur qu'un an plus tard, sans jouer, ça va être très problématique. Puis ces joueurs-là sont revenus au jeu, ils étaient aussi bons, puis des fois même meilleurs que quand ils avaient quitté pendant un an. Donc ça, c'est un des protocoles. Puis après ça, quand il y a blessure répétée, commotion répétée, puis que, comme je disais tout à l'heure, les commotions souvent sont de plus en plus importantes. Donc, quand les commotions sont de plus en plus importantes puis qu'ils sont de plus en plus lentes à récupérer, ben à ce moment-là, on conseille à l'athlète de prendre sa retraite ou de changer de sport, tout simplement.
On a peine à croire, Monsieur Fay, que des joueurs de hockey ont disputé des matchs sans casque. Tu sais, à la boxe professionnelle, à la boxe amateur, il y a des casques, mais boxe professionnelle, il n'y a pas de protection. Football, il y a une protection, mais est-ce que les athlètes sont bien protégés à la tête?
Bien, c'est sûr que plus on va avoir de protection, mieux c'est pour protéger des commotions. Malheureusement, il n'y a pas de casque qui existe pour protéger de commotions cérébrales pour l'instant parce que le cerveau, il est comme gélatineux, il est à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, le casque va faire très bien son travail pour protéger des fractures crâniennes, pour protéger une fracture du crâne, mais pour ce qui est du mouvement du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, il n'y a pas possibilité de protéger ce type de mouvement-là. Donc, oui, ça peut amortir les chocs, puis peut-être qu'au lieu d'avoir un trauma crânien, la personne va avoir une commotion cérébrale, ou peut-être ça va tellement absorber le choc qu'il n'y aura pas de commotion, mais on ne sera pas capable de protéger complètement des commotions par un casque, puisque le cerveau, on ne peut pas l'empêcher de bouger à l'intérieur de la boîte crânienne.
Vous êtes président de la Corporation des thérapeutes du sport au Québec, M. Fay. Quand vous avez des rencontres, vous avez des forums, quelles sont vos discussions? Qu'est-ce que vous tentez d'améliorer dans vos thérapies?
Ben ça, c'est vraiment une excellente question. Ce qu'on veut améliorer, c'est vraiment le service aux clients, offrir nos services en termes de soins de santé. Donc, pas juste nécessairement aux athlètes de haut niveau, mais à monsieur et madame tout le monde aussi qui ont des blessures musculo-squelettiques. Donc, ça peut être une entorse, ça peut être d'autres types de blessures qui peuvent être prises en charge par les thérapeutes du sport, que ce soit en clinique privée ou ailleurs. Puis, bien sûr, on offre nos services aussi dans de multiples écoles de sport-études. Et bien sûr, vu qu'on est des thérapeutes du sport dans les sports, autant dans les sports, pas nécessairement de haut niveau, mais il y a des thérapeutes du sport dans toutes les équipes professionnelles, dans toutes les équipes juniors majeures au Québec. Donc, quand on discute de ça, on discute vraiment de l'amélioration des soins à monsieur et madame tout le monde, puis aussi aux athlètes de haut niveau.
Monsieur Philippe Fay, président de la Corporation des thérapeutes du sport au Québec, merci beaucoup de nous avoir partagé vos connaissances.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment apprécié.
Merci, au revoir.